Nous accueillons la rédaction de France Culture pour le journal de midi et demi et Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Une nouvelle opération d'ampleur a été lancée tôt ce matin à Mayotte.
Oui, baptisée Place Nette, comme les récentes démonstrations de force destinées à lutter dans l'Hexagone contre les trafiquants de drogue. Il s'agit ici de lutter contre l'immigration illégale. Une manière, on le verra, pour le gouvernement critiqué pour son bilan en demi-teinte de réaffirmer sa position intransigeante sur l'archipel. À moins de 2 mois des élections européennes, nous inaugurons à partir d'aujourd'hui et désormais chaque semaine jusqu'au premier tour le 9 juin une série d'invités politiques. Le premier ce mardi, Pierre-Alexandre Anglade, directeur de campagne du groupe Renaissance. Après l'action collective des alliés d'Israël pour intercepter les drones lancés par l'Iran le week-end dernier, ceux-là même que la Russie envoie quotidiennement sur l'Ukraine, Kiev souhaiterait voir cette même solidarité dans son ciel pour contrer les attaques incessantes de Moscou. Nous serons en direct de la capitale ukrainienne. Enfin, c'est aujourd'hui que les actionnaires du géant industriel Stellantis doivent donner leur avis sur la rémunération controversée en France de son directeur, Carlos Tavares. De quoi relancer le débat sur la rémunération des grands patrons. Parce qu'à l'approche des élections européennes, chacun entend à présent démontrer toute l'attention qu'il porte à l'ensemble des territoires. Mayotte, 101e département français, pourrait rapidement se transformer en terrain de campagne. Marine Tondelier, la patronne des écologistes, est attendue demain sur l'archipel de l'océan Indien. Elle sera suivie en fin de semaine de la chef des députés du Rassemblement National, Marine Le Pen. Et puis, ce matin même, c'est au tour de l'exécutif de faire montre de sa préoccupation pour le territoire mahorais. Un an après Wambushu, une opération baptisée cette fois-ci Mayotte Place Nette a donc été lancée, l'occasion notamment pour le gouvernement de marteler son bilan. 700 logements insalubres détruits en un an, 60 interpellations liées aux gangs et 25 000 expulsions d'étrangers en situation irrégulière. Thomas Pinaroli, bonjour.
Bonjour.
Alors le nom de l'opération a changé, mais l'objectif, Thomas, reste toujours le même, faire toujours plus pour lutter à la fois contre l'insécurité et l'immigration illégale.
Exactement, cette opération Mayotte Place Nette va durer 11 semaines jusqu'à la fin du mois de juin. 1700 policiers, gendarmes, militaires prennent part à des actions qui se veulent ciblées sur les quartiers insalubres, avec 60 chefs de bande identifiés que les autorités espèrent interpeller. Pour la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, ces interventions sont nécessaires et attendues par les Mahorais.
On voit depuis plusieurs jours les violences qui reprennent. Par exemple, dans Kungu, qui est au nord de la capitale administrative, où il y a énormément de bidonvilles, on voit des attaques qui sont opérées contre les bus scolaires, contre les établissements scolaires. Et il y a une très forte demande de la population et des élus pour dire on peut pas laisser prospérer les bidonvilles et les zones de non-droit.
Le gouvernement promet de détruire 1300 bangas, ces maisons en tôle dans les bidonvilles. Mais l'an dernier, sur les 1000 destructions déjà annoncées, 700 avaient vraiment eu lieu. Un plan qui est donc vivement critiqué par la Ligue des droits de l'homme. Daniel Gros est le correspondant local de la LDH à Mayotte.
La politique de l'État, c'est détruire les bidonvilles et chasser tous les pauvres. C'est absurde en fait. Il n'y a pas de maisons disponibles pour héberger les gens qu'on déloge, dont on détruit les maisons. Personne ne va nulle part avec de tels projets.
L'exécutif assure que les personnes en situation irrégulière seront toutes expulsées et pour les autres, une enveloppe de 5 millions d'euros est prévue pour leur relogement. Dernière annonce, un navire de la Marine nationale et 2 vedettes déployées en mer pour intercepter les bateaux de migrants qui viennent des Comores.
Merci Thomas Pinaroli. Je précise que le gouvernement a également confirmé sa volonté de supprimer le droit du sol à Mayotte. Une loi constitutionnelle et une loi programme pour le département seront présentées au Conseil des ministres le 22 mai prochain.
Après la crise agricole, le Rassemblement national pourrait-il profiter désormais de la crise de l'immobilier pour se faire entendre?
Jusqu'ici plutôt discret sur le sujet, le parti d'extrême droite a déjà avancé plusieurs propositions, à commencer par l'instauration de la préférence nationale en matière d'attribution des logements sociaux. Mais pas seulement, la formation de Marine Le Pen propose également la construction de 100 000 logements sociaux par an. En revanche, et parce que le parti d'extrême droite garde toujours malgré tout un œil sur la carte électorale, en l'occurrence sur ses périphéries victimes du sentiment de déclassement où il réalise généralement ses plus gros scores, le RN envisage de changer la loi SRU qui impose à la plupart des villes de consacrer 20 à 25% de leur parc immobilier aux logements sociaux sous peine de pénalité. L'idée serait d'assouplir le texte actuel de sorte que seules les communes de plus de 75 000 habitants au lieu de 3 500 actuellement continueraient d'être contrainte par la loi. Héloïse Roger, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous.
Alors le parti de Marine Le Pen a déposé une proposition de loi en ce sens pas plus tard que la semaine dernière, ce qui atteste en réalité d'un double objectif. D'une part, répondre effectivement à l'agacement de certains édiles qui estiment que les pénalités en cas de non-respect sont aujourd'hui trop élevées. Et d'autre part, couper l'herbe sous le pied de l'exécutif, puisque Héloïse, le gouvernement prévoit lui aussi de réformer la loi SRU.
Oui, c'est une façon pour le Rassemblement National de passer à l'attaque. En premier, de s'adresser d'abord à ces communes de moins de 75 000 habitants et de leur proposer des règles beaucoup plus souples afin de répondre aux édiles agacés de subir les obligations de la loi SRU et les pénalités financières qui en découlent en cas de non-respect. 95% des communes concernées dans ma région ne respectent pas le taux minimal de logements sociaux, dénonce le député. Pour une partie des élus, cette loi est un scandale, abonde-t-il, et peu importe leurs engagements politiques de chacun. En déposant cette proposition de loi, Franck Alizio et le Rassemblement National s'emparent de la crise immobilière et grillent la politesse au gouvernement qui a lui aussi prévu sa refonte de la loi SRU. Gabriel Attal l'a annoncé lors de sa déclaration de politique générale en janvier dernier. Ce n'était pas voulu, assure le député RN. Le déclic a eu lieu lors de mes vœux pour la nouvelle année au maire de ma circonscription. Il le concède, cette proposition de loi n'a aucune chance d'être inscrite à l'agenda de l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines, en dehors de la niche du Rassemblement national prévu à l'automne. Mais l'idée est donc bien de marquer la présence du parti dans ce débat en amont d'un projet de loi gouvernemental.
Merci Héloïse Roger. Alors on l'aura compris, tous les sujets aujourd'hui, qu'il s'agisse donc de la crise du logement ou, comme on l'a vu un peu plus tôt, de l'immigration illégale à Mayotte, sont de nature à alimenter les débats dans la perspective des prochaines européennes, y compris sur des enjeux nationaux. Preuve qu'à un peu moins de deux mois maintenant du scrutin, la campagne est désormais bien engagée en France. Raison pour laquelle aussi à partir d'aujourd'hui et désormais chaque semaine jusqu'au premier tour le 9 juin, nous inaugurons une série d'invités politiques. Le premier ce mardi, Pierre-Alexandre Anglade, directeur de campagne de Renaissance et président de la Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée Nationale. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Rosalie Lafarge du service politique de la rédaction. Bonjour Rosalie.
Bonjour. Pierre-Alexandre Anglade, Jordan Bardella au RN toujours plus en tête, Raphaël Glucksmann, PS Place Publique qui monte, au milieu, prise en étau. Votre candidate, Valérie Ayé, vous allez me dire que les sondages ne font pas une élection, mais ils donnent une idée et de plus en plus, ils laissent entrevoir la possibilité d'une bascule. Est-ce que vous serez troisième le 9 juin ?
Non, je ne le crois pas. Et d'ailleurs, quand vous regardez les études d'opinion, puisque vous m'invitez à les commenter, même si j'évite de le faire à un peu plus d'un mois du scrutin, parce que ça donne une image, effectivement, mais ça, je considère que ce ne sera pas le résultat du 9 juin prochain. Raphaël Glucksmann, que vous évoquez, est souvent plus proche de Manon Aubry. Et donc, le combat qui est le nôtre, c'est de renforcer cette Europe puissance qu'on a portée avec le président de la République ces 5 dernières années. Et c'est certainement pas de verser dans une espèce de campagne interne à la gauche, entre les candidats de la NUPES, pour savoir qui aura le leadership de la gauche en 2027. Et donc, nous traçons notre sillon européen, comme nous le faisons depuis 2017, sans regarder derrière nous.
Est-ce que vous n'avez pas vous-même encouragé les déçus du macronisme à partir chez Raphaël Glucksmann quand Valérie Ayé dit dans sa toute première interview « On vote à 90% la même chose au Parlement européen ». Est-ce que ça, c'est pas une erreur de stratégie ?
Mais elle a dit ce qu'est le Parlement européen, c'est-à-dire que d'ici, depuis Paris, ça peut paraître étonnant, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de fait majoritaire.
Mais elle dit qu'il devrait être avec nous,
et donc, quand vous êtes dans le groupe central, pivot charnière, qui est le nôtre au Parlement européen, ce groupe du centre, vous êtes le groupe qui fait la bascule d'un côté ou de l'autre et qui permet de créer des majorités. Et la politique européenne, c'est pas le Capharnaüm auquel on peut assister à l'Assemblée nationale. Vous devez construire des majorités avec les uns et avec les autres.
Mais avec vous, il devrait
Raphaël
pas être
Glucksmann,
vous.
C'est un Européen au fond de façade ou un Européen d'apparat, comme l'a nommé le ministre des Affaires européennes Jean-Noël Barrot, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a fallu voter des grands textes européens qui étaient attendus par nos concitoyens, il a calé. Je pense évidemment au plan de relance. Le plan de relance en 2020, au milieu de la crise Covid, c'est ce qui est venu nourrir les plans de relance nationaux, c'est ce qui a permis de protéger les artisans, les commerçants, les TPE, nos agriculteurs, toutes celles et ceux qui faisaient vivre le pays, et qui a fait que l'économie européenne ne s'est pas écroulée comme elle a pu s'écrouler au moment de la crise grecque au cœur des années 2000. Quand il a fallu voter la semaine passée le pacte asile et immigration, il ne l'a pas voté. Et ne pas voter le pacte asile et immigration, c'est au fond acter le statu quo. Et ce statu quo en matière migratoire, c'est ce qui fait le lit du Rassemblement national. Et donc la semaine dernière, les eurodéputés ont voté pour plus d'harmonisation sur les procédures d'asile, pour plus de solidarité avec les États membres, entre les États membres. Donc je ne comprends pas pourquoi Raphaël Glucksmann ne l'a pas voté. C'est pour ça que je dis que c'est un Européen au fond du statu quo.
Au-delà du sujet Glucksmann, le cœur de votre stratégie, c'est de taper sur le RN matin, midi et soir. C'est assumé, avec en tête l'idée de mobiliser votre camp. Mais est-ce que le risque, ce n'est pas de surmobiliser celui de votre adversaire ?
Il ne s'agit pas de taper matin, midi et soir sur le Rassemblement National, il s'agit de dénoncer ce qu'est le projet du Rassemblement National, c'est-à-dire un projet de soumission et d'affaiblissement de la France et de l'Europe. Et que si demain le Rassemblement National venait à constituer, en tout cas à se renforcer avec ses alliés européens, il faut quand même le dire à nos auditeurs, qui est le pire de l'extrême droite. Jordan Bardella peut faire semblant, peut ripolliner la façade. La vérité, c'est que ça reste un parti d'extrême droite et que ses alliés en Europe portent en eux le pire de notre histoire. Et donc, si ces gens-là venaient à être renforcés au niveau européen, ils pourraient avoir une capacité de blocage dans le soutien à l'Ukraine, dans les politiques de lutte contre le dérèglement climatique, dans les politiques pour réindustrialiser au niveau européen et recréer des emplois, dans l'Europe de la défense, qui est une priorité absolue pour les 5 prochaines années. C'est pour ça qu'il faut dénoncer ce projet, parce qu'ils avancent masqués. Et moi, je considère que c'est de la responsabilité de la majorité, de notre campagne, de dire ce qu'est ce projet de soumission et de délitement du projet européen, même s'ils n'osent plus le dire de cette manière-là. S'ils arrivaient demain en responsabilité, une des premières choses qu'ils feraient, ce serait évidemment d'affaiblir l'Europe.
Vous avez été nommé donc directeur de campagne, mais vous êtes député, président de commission. Ils sont où vos collègues députés dans cette campagne ? Est-ce que vous vous sentez pas un peu seul ?
Non, ils sont sur le terrain. On a, en tout cas en ce qui concerne la majorité présidentielle, organisé déjà plus de 200 réunions publiques.
Ils se sont fait remonter les bretelles par le chef de l'État.
Non, non, il n'y a pas eu de réunion entre le chef de l'État et les députés.
Il a fait passer le message.
Mais en tout cas, c'est évident que dans ce moment difficile au niveau européen parce que la guerre est de retour en Europe, parce que les défis sont nombreux, parce que nous voyons aussi les désordres au Proche-Orient, parce que nous voyons aussi l'extrême droite progresser dans notre pays, mais aussi dans tous les pays européens, c'est évident qu'il faut sonner le tocsin et que la mobilisation est essentielle si on veut faire en sorte de défendre cette Europe puissance qui sera plus forte dans les politiques climatiques, dans les politiques industrielles, dans le renforcement de nos politiques de santé au niveau européen. On a vu à quel point c'était important au moment de la crise Covid. C'est tout ça qu'on veut défendre. Et donc, ce moment-là, il faut évidemment faire en sorte que tout le monde se mobilise, parce que sinon, vous allez voir que le 9 juin prochain, ce seront les nationalistes, les identitaires qui seront largement en tête. Et vous parlez de Bardella, mais quand vous mettez bout à bout Bardella, Bellamy, Maréchal Le Pen, tous ces gens-là sont pas loin de 50%. Et donc je pense que plutôt que taper sur la majorité matin, midi et soir comme le font certains, il ferait bien de s'intéresser un peu à ce qui se passe à l'extrême droite.
Vos adversaires dévoilent petit à petit la suite de leur liste avec des nouvelles recrues au RN, chez LR par exemple. Est-ce que vous, en quelques mots, vous êtes aussi encore en capacité d'attirer de nouveaux profils ?
Nous, on n'est pas dans le coup de com' permanent. Qu'est-ce qu'apporte Mme Sorel qui faisait le pied de grue devant le président de la République, voire un poste au gouvernement il y a encore de cela quelques mois ? De la même manière, M. Vallée, qui est un habitué des plateaux de télévision, ou le général Gomard, qui a l'air d'être plus proche de la Russie que de l'Ukraine pour les Républicains. Donc nous, on a fait le choix en 2019 de mettre des femmes et des hommes qui étaient compétents sur les sujets européens, qui ont bien travaillé au Parlement européen. Je pense à Pascal Canfin, qui est le président de la Commission du développement durable. Je pense à Jérémy Dessert, qui est un agriculteur et qui va continuer et qui mène un travail aussi important. Et donc nous, on va faire le choix de poursuivre avec des femmes et des hommes qui sont engagés au service du projet européen.
Merci Pierre.
Merci
Alexandre
à vous.
Anglade, directeur de campagne, donc je le rappelle, du groupe Renaissance, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Rosalie Lafarge.
Vous écoutez France Culture, il est 12h43 et c'est la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Éviter l'escalade depuis ce week-end, de nombreux pays, États-Unis en tête, le répètent à l'unisson. La riposte promise par Tel Aviv à l'attaque perpétrée par Téhéran ne doit pas transformer la guerre entre Israël et le Hamas. Et pire encore, les dévastations et le carnage infligés à Gaza en une conflagration plus importante. Reste à savoir combien de temps l'État hébreu résistera à la tentation de saisir cette opportunité stratégique sans précédent de constituer un front renforcé avec les puissances occidentales et ses voisins arabes contre un ennemi commun, la République islamique. Alors il est un pays que cette coalition, d'ailleurs agace d'ores et déjà, c'est l'Ukraine, théâtre du pire conflit armé en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, bombardée quotidiennement par son voisin russe depuis plus de 2 ans maintenant. Et dans ce contexte, eh bien le soutien militaire occidental qui a aidé Israël à intercepter la quasi-totalité des missiles et des drones explosifs iraniens suscite une profonde amertume à Kiev, qui s'interroge sur les raisons de la réticence de ses alliés aujourd'hui à l'aider davantage militairement. Les précisions sur place de notre envoyé spécial Agathe Mahué.
Volodymyr Zelensky a bien noté la réaction groupée et réussie des Occidentaux face à l'Iran.
Israël n'est pas membre de l'OTAN, donc aucune action telle que le déclenchement de l'article 5 n'était requise et personne n'a été entraîné dans la guerre. Ils ont simplement contribué à la protection de la vie humaine.
Israël face à l'Iran, l'Ukraine face à la Russie, tous hors de l'OTAN, en effet. Même cas de figure, a priori, aux yeux des Ukrainiens. Alors pourquoi cette différence, s'interrogeait aussi hier soir Maxime Kozitsky, le gouverneur de Lviv, devant des journalistes.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, certains pays sont plus importants que d'autres. Aux yeux des Européens et des Américains, est-ce que la vie des Ukrainiens serait moins précieuse que celle des Israéliens ?
À cela, Londres répond qu'il n'est pas possible de déployer directement dans le ciel ukrainien, comme cela a été fait il y a deux jours au-dessus de l'Irak et de la Syrie, des avions de combat occidentaux. Cela placerait frontalement les forces de l'OTAN face à la Russie, trop risqué. Et si certains spécialistes expliquent qu'un parapluie de défense anti-aérienne installé en Pologne, par exemple, pourrait être une piste, sa portée serait limitée. L'ouest de l'Ukraine pourrait être protégé, mais certainement pas des villes comme Kiev ou Kharkiv.
Faire des prétoires une estrade politique pour sa campagne aux États-Unis, la stratégie de Donald Trump a été maintes fois ressassée et la journée d'hier n'aura pas fait exception. Au premier jour de son procès au pénal, le candidat républicain à la Maison-Blanche a dénoncé une chasse aux sorcières. Quoi qu'il en soit, cette deuxième journée d'audience sera à nouveau consacrée à la sélection de 12 jurés impartiaux qui devront décider donc à l'unanimité si le milliardaire est coupable ou non d'avoir dissimulé des paiements afin d'acheter le silence d'anciennes maîtresses, une véritable gageure, tant l'accusé ne laisse évidemment personne indifférent, qui plus est dans un climat politique hyper polarisé. Et tandis que son adversaire sera donc sur le banc des accusés aujourd'hui, le président Joe Biden prendra lui un bain de foule revigorant dans la ville qu'il a vu naître il y a 81 ans, à Scranton, dans l'état de Pennsylvanie, pays des cols bleus, le cœur industriel du pays, pas nécessairement d'ailleurs acquis à sa cause, et qui à ce titre fera même sans doute partie des terrains de bataille les plus disputés de l'élection le 5 novembre prochain. Les actionnaires de Stellantis, réunis aujourd'hui en Assemblée Générale, sont appelés à donner leur avis sur la rémunération de Carlos Tavares, le directeur général du géant automobile. Alors on parle là de 36,5 millions d'euros possibles pour la seule année 2023, soit le cas échéant, un salaire en hausse de 56%, largement suffisant donc pour relancer la polémique sur les salaires des grands patrons jugés exorbitants. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
L'AG se déroulera dans un peu plus d'une heure maintenant à Amsterdam. La société étant de droit néerlandais, le vote des actionnaires sera d'ailleurs purement consultatif, contrairement à ce qui se serait passé si le siège social était situé en France. Tout porte à croire donc, Hakim, que le patron du quatrième groupe automobile mondial touchera bien le pactole, d'autant que Carlos Tavares assume totalement cette rémunération.
Oui, une hausse de sa rémunération par rapport à l'année dernière, qui est notamment liée au versement d'une prime de 10 millions d'euros pour la transformation du groupe en 2021 avec la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Une rémunération qui intègre également des pensions de retraite et des bonus en fonction des objectifs que devra atteindre Carlos Tavares à la fin de son mandat en 2025. Un salaire qu'assume complètement le dirigeant de Stellantis au micro de Natacha Cadour de France Bleu. Lorraine Nord.
D'abord, c'est une dimension contractuelle entre l'entreprise et moi, comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1. C'est une dimension contractuelle, il y a un contrat. Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise. 90%. Donc, ça prouve que les résultats de l'entreprise sont apparemment pas trop mauvais. D'ailleurs, sur ces critères-là, si vous aviez la performance de mes concurrents, le salaire aurait été beaucoup plus faible. Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai.
Carlos Tavares qui ajoute également qu'il faut comparer son salaire à celui des dirigeants aux États-Unis où le groupe réalise une grande partie de ses bénéfices. Des propos peu appréciés par les syndicats, dont la CGT, qui rappelle que le salaire du dirigeant représente une rémunération de 100 000 euros par jour. Quant aux actionnaires, dont l'État, qui ne détient que 6% via la Banque publique d'investissement, même s'il vote contre Thomas, cela n'aura pas vraiment de conséquences dans la mesure où le vote des actionnaires est non contraignant.
Merci à Kim Kasmi. Édifice incontournable de Copenhague, le bâtiment historique de l'ancienne bourse datant du XVIIe siècle, a pris feu tôt ce matin devant des Danois médusés. Sa flèche emblématique de 54 mètres de haut s'est effondrée dans les flammes. Enfin, du jamais vu dans notre galaxie, d'une masse record de 33 fois celle du Soleil, un trou noir stellaire atypique situé à 2000 années-lumière de la Terre a été débusqué dans la Voie lactée, dans la constellation de l'Aigle. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi, couvert et humide sur un bon quart nord-est du pays ainsi que dans le sud-ouest, partout ailleurs. Le ciel sera plus sec et lumineux. Quant aux températures, elles afficheront entre 11 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.